Bonjour, bonjour Yves, au micro de Divergence FM pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui, malgré ce ton funèbre, ne dérogera pas à la tradition en vous rappelant que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film. Peut-être l'apprends-je à quelques-uns, quelques-unes. Bienvenue, welcome dans cette émission consacrée donc à cet art étrange qui consiste à illustrer les petites images qui bougent sur les grands écrans depuis maintenant un peu plus d'un siècle, depuis beaucoup plus d'un siècle. Nous avons commencé en 1895. Je n'étais pas né, contrairement à ce qu'écrivent certains auditeurs anonymes. C'est pas gentil de faire des choses pareilles. Et ce jour, eh bien, autant vous le dire, dans 24 notes secondes. Et je ne sais pas comment il se fait qu'il a fallu attendre autant d'années et autant d'émissions pour y venir. Eh bien, nous allons consacrer l'émission de ce jour au plus grand film de tous les temps. Et plutôt que d'en parler d'abord, eh bien, si l'opérateur est prêt, on va s'en passer tout de suite un extrait de la bande originale de ce plus grand film de tous les temps. Et vous allez forcément reconnaître ça.
Thank you.
Ah bah oui, je suis désolé, je pleure du début jusqu'à la fin en écoutant la bande originale et en voyant le plus grand film de tous les temps, en l'espèce, autant en emporte le vent. Y en a-t-il qui n'ont pas reconnu cette fameuse sublimissime musique de Max Steiner pour Gone with the Wind, dont on regrette, dont on ne comprend pas qu'elle n'ait pas obtenu cette année-là, en 1940, l'Oscar de la meilleure musique de film? Eh bien non. En tout cas, effectivement, tous les superlatifs sont quasiment à épuiser. On ne sait même plus lesquels utiliser pour décrire ce qui fut certainement l'un des plus grands films pour moi. Peut-être le film qui synthétise toute la magie du cinéma, un film qui fut pourtant extrêmement complexe à monter et à faire. Le roman duquel s'inspire le film Gone with the Wind, écrit par Margaret Mitchell, dont ce fut l'unique roman, puisque la pauvre, née en 1900, mourut dès 1949, à ma souvenance, dans un accident de voiture. Elle fut renversée par une voiture. Et bien, en 1936, ce roman parut, lui valut instantanément le prix Pulitzer et fut vendu à 12 millions d'exemplaires. En tout cas, c'était à l'époque de ma petite fiche. Depuis, il s'est sans doute vendu beaucoup plus. Un roman donc qui raconte l'histoire de Scarlett O'Hara, interprétée, j'y reviens, et de ses amours tourmentés, notamment avec Ashley Wilkes, puis avec le délicat Red Butler, interprété par, j'y reviens, quelque part avant, pendant, après la guerre de sécession, autour de 1860. Un roman qui quand même fleure bon sa nest la nostalgie du vieux Sud, mais c'est bien à ce vieux Sud qu'appartenait Margaret Mitchell et c'est bien à ce vieux Sud qu'elle voulut célébrer dans ce film dont le titre est inspiré d'un poème d'un poète duquel j'ignore tout, je l'avoue, Ernest Dowson. J'ai oublié Cynara, autant en emporte le vent, Gone with the Wind. Pour une fois, le titre français est à l'aune du titre anglais pour un chef-d'œuvre qui doit beaucoup, certes, à son ou plutôt ses réalisateurs, j'y reviens si j'ai le temps, décidément, mais surtout, surtout à un homme, en l'espèce David Osesnik, producteur né en 1902. Et qui mit toute sa fougue et son énergie créatrice, en atteste ces fameux mémos qui furent publiés après sa mort, je crois, pour produire un film qui s'imposa dès l'abord, puisque d'évidence, au vu du succès du roman, d'évidence, il fallait faire un film très rapidement aussi, puisque entre 1936, je vais en bafouiller beaucoup, je vous l'ai dit, entre 1936 et 1939, eh bien, les nuages s'amoncelaient sur le monde et quelque part, on aurait dit qu'il fallait que ce film sortît avant le début de la Seconde Guerre mondiale, en tout cas avant le début de la Seconde Guerre mondiale pour les Américains, et en l'espèce donc très rapidement, David Zesnik s'engagea dans ce chantier absolument colossal, puisque le film coûta près de 4 millions de dollars, ce qui pour l'époque était une somme assez fabuleuse. Alors, les principaux interprètes, je vous l'ai dit, il y a la femme, il y a deux hommes, il y a aussi une deuxième femme, en l'espèce Olivia de Havilland, ou plus exactement Melanie Hamilton, jouée par Olivia de Havilland. Pour les deux hommes, Leslie Howard d'une part et Clark Gable dans le rôle de l'aventurier séduisant à la moustache s'imposèrent très rapidement. Clark Gable donc dans le rôle de Red Butler, aventurier cynique mais finalement plutôt bon citoyen avec le Sud. Et par contre, eh bien, on eut beaucoup de mal à trouver une interprète pour le rôle de Scarlett O'Hara. Toutes les actrices hollywoodiennes de l'époque voulurent bien évidemment ce rôle. Bette Davis, Catherine Hepburn, Tallulah Bankhead, Miriam Hopkins, Lucille Ball, Norma Shearer, Paulette Goddard, John Bennett, peut-être des noms un peu oubliés ce jour, mais qui à l'époque étaient les plus grandes actrices du cinéma américain. Et à la plus grande surprise de tout le monde, le tournage du film avait déjà commencé, qu'on ignorait quelle serait son interprète principale, c'est-à-dire la folie de David Olsen. À la surprise de tout le monde, eh bien, ce fut une Anglaise qui l'obtint, en l'espèce Vivian Leigh. Vivian Leigh qui vivait à l'époque une passion aussi bien à l'écran que hors de l'écran, comme l'on dit, avec Laurence Olivier, qui n'était pas encore sœur Laurence Olivier. Ce fut donc une Anglaise qui l'obtint, et le bon sens américain voulut qu'on dit dans les campagnes sunnistes, il vaut mieux une Anglaise qu'une Yankee, c'est-à-dire qu'il valait mieux avoir une actrice anglaise qu'une actrice du Nord, puisqu'il s'agissait d'évoquer la guerre de sécession. On y revient, mais on laisse à nouveau la place à la musique. On va écouter jusqu'à plus soif des extraits de cette bande originale Max Steiner. Autant t'en emporte le vent dans 24 notes secondes. Un nouvel extrait bucolique de la bande originale de Max Steiner pour évoquer les heureux jours de Tara, bien sûr, la propriété, où Scarlett O'Hara, bonne fille du Sud, vit le jour et surtout fête son 16e anniversaire alors même que le film débute et alors même que la guerre de sécession va commencer. Elle va bien commencer, évidemment, la fleur au fusil, elle va mal se finir, évidemment, et ensuite, eh bien, il y aura l'occupation humiliante par les susdites, par les nordistes. Pardon, pourquoi parler susdite ? On ne sait pas trop, un mélange sans doute, mais, bien de tout cela, Scarlett O'Hara, interprétée donc par Vivian Leigh, Scarlett l'indomptable, triomphera avec beaucoup de cynisme, il faut le reconnaître, évidemment, beaucoup de charme aussi et une trempe comme on aimerait en voir à beaucoup d'hommes. Peut-être, je fais une hypothèse un peu audacieuse, autant en emporte le vent, est-il le premier grand film féministe et peut-être le plus grand film féministe de tous les temps, puisque c'est le plus grand film de tous les temps. En tout cas, c'est un film qui met en vedette une femme, et quelle femme, dont Scarlett O'Hara, un film dont le tournage commença, comme je vous l'ai dit, alors même que l'interprète principale n'était pas connue, le 10 décembre 1938. Alors la légende, mais l'histoire aussi, dit que ce tournage commença par la séquence de l'incendie d'Atlanta, qui intervient fort après le début du film proprement dit, et où David Olszewski ne craigna pas de détruire quelques décors d'anciens films, notamment d'anciens films muets. C'est sans doute ça l'histoire du cinéma et ai-je besoin de le dire, on voit dans cette scène, en tout cas dans le film final, Scarlett et Rhett fuir dans une carriole. L'incendie d'Atlanta pour des jours meilleurs, en fait, pour Scarlett, pour retourner à Tara. Et bien évidemment, ce ne sont que des doublures qui donnaient les rôles principaux, puisqu'à l'époque, on ne savait pas qui jouait Scarlett, qui jouerait Scarlett. Ce tournage, eh bien, se poursuivit d'abord sous la direction de Georges Cukor, un réalisateur justement réputé pour mettre en valeur les femmes, mais peut-être un peu trop, puisque, à la demande, paraît-il, de Clark Gable, il fut assez rapidement remplacé par Victor Fleming. Clark Gable ne s'entêtait guère avec lui. Il fut assez rapidement remplacé par Victor Fleming, qui finit par signer seul le film, mais c'était peut-être beaucoup pour un seul homme, puisque cette même année 1939, Victor Fleming signa un autre chef-d'œuvre dans un genre tout à fait différent. En l'espèce, le magicien d'Oz avec la délicieuse Judy Garland. Vraiment 1939, une année exceptionnelle pour le cinéma américain. Et puis pour ne pas oublier ceux qui ne sont pas forcément cités comme tels à l'écran, même si ils le sont quand même. Sam Wood, autre réalisateur vieux routier du cinéma américain, réalisa quelques séquences et surtout, l'un des hommes derrière la réussite du film, tout comme David O. Selznick, William Cameron Menzies, qui fut responsable des décors et de ce qu'on appelle aujourd'hui la direction artistique, qui donne à ce film en technicolore une beauté splendide et à mon sens inaltérable. Eh bien, William Cameron Menzies tourna de nombreuses scènes, donc pour un tournage quand même relativement tourmenté. Il est même incroyable que pour un film de plus de 3h30, de presque 3h30, il ne fallut que 5 mois entre le 10 décembre 1938 et le 26 juin 1939 pour que le film soit tourné. Ensuite, il ne fallut que là encore 5 ou 6 mois avant que la première eût lieu. Alors il y a des films comme ça dont marque non seulement la date de leur sortie, mais aussi la date de leur première. En l'espèce, cette première eut lieu à Atlanta, bien évidemment, en Géorgie, bien évidemment, en plein pays sudiste, le 15 décembre 1939. Ce fut un triomphe immédiat et dès la Noël, soit peut-être une grosse semaine après, le film avait déjà rapporté $1 million aux États-Unis à une époque où on n'en était pas encore à des sorties très rapides dans la série Take the Money and Run. Les films gagnaient leur succès sur la durée. Et quel succès, puisque le film ne sortit en France qu'en 1950. Vous l'avez compris, la guerre était passée par là. Et d'évidence, il n'était pas question de passer des films américains. C'était même interdit par l'occupant allemand. Mais entre 1939 et 1950, autant en emporte le vent, triompha partout dans le monde. Et bien évidemment, il triompha aussi en Oscar, puisque pour les Oscars de cette année-là, décernés le 29 février 1940, le film obtint 13 nominations, excusez du peu, il devait y avoir peut-être une 25 ou 30 Oscars à l'époque, il y en avait moins que maintenant. Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario, meilleure actrice, bien sûr, pour Vivian Leigh, mais pas meilleur acteur pour Clark Gable. Alors ça, vraiment, c'est une injustice absolue. Meilleure actrice aussi, et il est important de le noter pour Hattie McDaniel. Alors, c'est important de le noter. Pourquoi, cher animateur de 24 notes secondes ? Tout simplement parce que c'est le premier Oscar attribué à une actrice noire, Hattie McDaniel, pour ceux qui ont vu Autant en emporte le vent incarné, avec quelle faconde désopilante, le rôle de la gouvernante de la capricieuse Scarlett O'Hara. Meilleure photographie, meilleur montage, meilleure direction artistique, mais on l'a dit, pas meilleur acteur, et on l'a dit aussi, et là c'est quand même pas normal, pas meilleure musique de film. Donc pour se venger, à titre posthume, on va écouter un nouvel extrait de cette bande originale. Elle était signée de Max Steiner et d'évidence, elle aurait mérité ce 29 février 1940 un Oscar comme les autres. Un nouvel extrait fort nostalgique de la bande originale signée Max Steiner, d'autant On emporte le vent, qui mettait donc en vedette, je l'ai dit, Scarlett alias Vivian Leigh, une actrice anglaise, je l'ai dit aussi, mais je ne l'ai pas dit, née aux Indes, à Darjeeling, le 5 novembre. Allez, on peut le dire maintenant. 1913, née Vivian Mary Hartley, devenue Vivian Leigh par son premier mariage, elle en eut plusieurs, avec un avocat. Elle débute au cinéma en 1934 dans un film dont j'ignore tout, Things Are Looking Up, signé Albert de Courville, de lui aussi j'ignore tout. Et puis ensuite, son premier rôle en vedette dès 1935 dans Gentleman's Agreement, produit par Alexander Korda, qui lui signe un contrat de 5 ans et lui offre donc des rôles un peu plus conséquents, notamment un rôle dans L'Invincible Armada, tourné en 1936 et où elle rencontre un homme qui va beaucoup compter pour lui, en l'espèce Laurence Olivier. Ensuite, eh bien, quelques films, notamment un relativement drôle Vedette du pavé, St. Martin's Lane, avec Charlton dans le rôle masculin principal, avant que de tourner, d'aller à Hollywood donc pour prendre ce qui sera sans doute le rôle de sa vie, mais je vais y revenir, Autant en emporte le vent, 1939 donc, de Victor Fleming, un rôle duquel, et c'est pour ça que je faisais mais, elle disait qu'elle ne l'avait jamais aimé, en tout cas qu'elle n'avait jamais aimé Scarlett, qu'elle savait que c'était un rôle merveilleux, mais que le personnage ne l'intéressait pas. Alors peut-être coquetterie d'actrice, en tout cas cela ne l'empêcha pas d'obtenir donc l'Oscar de la meilleure actrice sans coup férir dès 1940, cette même année de se marier avec Laurence Olivier, et puis de devenir une grande vedette à Hollywood et de tourner parfois avec son mari, parfois pas, notamment comme dans La Valse dans l'ombre en 1940 de Mervyn LeRoy, et cette fois avec Laurence Olivier dans Lady Hamilton, tourné en 1941, un film qui était une sorte d'évocation métaphorique de la résistance à l'occupant nazi, mais vu évidemment du côté de Lady Hamilton et de l'amiral Nelson que jouait bien sûr Laurence Olivier. Ensuite, les rôles se raréfièrent, en tout cas au cinéma, puisqu'on l'a vu, dans César et Cléopâtre de Gabriel Pascal en 1945. On l'a vu dans le rôle d'Anna Karenine de Tolstoï dans un film de Julien Duvivier. Oui, Julien Duvivier a tourné des films ailleurs qu'en France, et notamment en 1948, donc en Angleterre. Et surtout, on l'a vu, et ce fut l'un de son dernier grand rôle, pourrait-on dire, en 1951 dans l'adaptation remarquable, définitive à l'écran d'Un tramway nommé Désir, Streetcar Named Desire, d'Elia Kazan, qui avait mis en scène la pièce à Broadway, avec donc dans le rôle principal de la pièce à Broadway, Olivia de Havilland, comme le hasard fait bien les choses, Olivia de Havilland qui déclina le rôle qui échut à Vivian Leigh, qui lui-même avait interprété le rôle de Blanche à la scène à Londres, j'espère avoir été clair, et qui donc l'obtient au cinéma avec, ai-je besoin de le préciser, Marlon Brando à ses côtés, l'homme au t-shirt mouillé, déchiré, définitif, qui enterre définitivement tous les autres hommes au t-shirt mouillé, déchiré, qui ont suivi, oui, vous là, et puis vous là, dégagez, Marlon était là avant vous, et il était bien meilleur dans ce film d'Elia Kazan, tourné en 1951, certainement l'un des derniers grands rôles de Vivian Leigh qu'on ne vit plus guère ensuite sur les écrans, et qui mourut de la tuberculose, mais oui, on pouvait encore mourir de la tuberculose à Londres le 8 juillet 1967. Sic transit gloria mundi. Et après ces intermèdes funèbres, allez, encore un petit extrait de cette bande originale, Max Steiner, Autant en emporte le vent, dans Divergence FM. Pardon, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt, bye bye.